France Musique. Les grands entretiens. Yvan Amar. France Musique.
Je m'appelle Bojan Zulfikar Pašić. Je suis né le 2 février 1968 à Belgrade, en Yougoslavie, et je suis musicien.
Bonjour Bojan.
Bonjour Yvan.
Merci beaucoup d'être ici. Je dis Bojan par pure facilité, parce que je pourrais dire Bojan Z, je le dis souvent. À une époque, je m'enorgueillissais d'être l'un des rares qui savait, mais à peu près, dire Zulfikar Pašić, c'est ça? Oui, mais c'est vous qui m'avez appris, j'ai aucun mérite.
Bravo.
Mais maintenant, je fais comme tout le monde et je vous appelle Bojan Z. Je connais votre musique depuis longtemps. En revanche, je connais peu de choses sur vous, donc je suis très content qu'on puisse vous interroger pour les grands entretiens.
Moi aussi, merci pour cette invitation.
Alors, je sais que vous êtes né à Belgrade, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu d'abord de vos parents, dans quelle famille vous êtes né.
Je suis né dans une famille de mélomanes définitivement. Les deux, donc ma mère et mon père, ils avaient quelques années d'études de piano. Ma mère, elle est restée très très scolaire, elle jouait plutôt du Chopin, etc., etc. Tandis que mon père, il avait cette fibre gitane, donc il chantait aussi, il jouait la guitare. Et c'est lui qui m'a montré l'exemple où on cherchait les accords à l'oreille, quoi. On connaissait la mélodie, mais voilà, il a fallu comprendre quel genre d'harmonie ou inventer ou quelque chose qui pouvait aller sur la mélodie. Donc il jouait aussi la musique qui était non écrite, transmise oralement.
Il n'était pas gitan lui-même?
Non, pas du tout. Pas du tout, mais vivre à Belgrade, dans la famille, j'ai eu quand même quelques personnages qui jouaient la musique, pas classique, mais la musique populaire. Notamment mon, on va dire, oncle, mes deux oncles, en fait. Celui qui était à Sarajevo. Lui, il était l'un des premiers chanteurs pop de Bosnie au début des années 60. Après, il a arrêté. Quelqu'un lui a dit la fameuse phrase « Trouve-toi un vrai boulot ». Ce qu'il a fait, il est devenu un superbe architecte. Et l'autre oncle qui est à Belgrade, lui, il faisait du ballet donc au Théâtre National de Belgrade pendant la journée. Et le soir, il jouait dans les restos, dans la vieille ville à Belgrade. Et c'est certainement lui qui a partagé cette passion pour les chansons populaires et avec mon père.
Et la ville de Belgrade, elle était très musicale. On entendait beaucoup
oui.
de musique.
Ah oui, absolument.
Il y avait des fêtes, des musiques de rue.
C'est toujours le cas, malgré effectivement la modernisation. Si vous voulez qu'on j'y vais de temps en temps, je me retrouve presque chaque soir dans un resto avec l'orchestre autour de nous qui est en train de jouer. Tout le monde est en train de chanter. Vous payez pour vos chansons préférées. Donc il y a toujours cette tradition où dans les restos, il y a les orchestres avec les guitares, les mandolines, etc., et les contrebasses, et tout le monde chante. Alors les orchestres, ils étaient soit mélangés, où il y avait les gitans aussi, parce que les gitans, traditionnellement, ils sont musiciens, mais aussi il y avait des orchestres sans les gitans, comme celui dans lequel opérait mon oncle.
Alors qu'est-ce qui jouait ces orchestres gitans? Je vous pose cette question parce que je me souviens d'une fois où je vous ai posé une question sur un morceau que vous aviez écrit, et d'un air d'évidence, vous m'avez dit « mais c'est une kolo ». Bon, moi je ne savais pas trop ce que c'était.
Et kolo, ce sont les mélodies traditionnelles jouées dans des tempos plutôt relevés. Et voilà, et des gens ils se prennent par les mains, ils font un demi-cercle. Et c'est, disons, c'est un peu comme les vases de Strauss. C'est quelque chose qui est censé vous vider de l'alcool que vous venez de consommer, n'est-ce pas, dépenser un peu tout ça, et puis vous faire entrer dans une espèce de une espèce de transe. Définitivement, cette musique-là, c'est la musique que j'ai découverte par la suite, quelques années plus tard, vers l'âge de 8-9 ans, quand j'ai commencé à voyager. Et surtout vers la Macédoine, donc c'était la partie de la Yougoslavie où pour moi c'est un peu le cœur de ce qu'on peut appeler la musique balkanique.
Il jouait plusieurs instruments.
La guitare et le piano, voilà, il chantait.
Et il y avait un piano à la maison, évidemment.
Effectivement, il y avait un piano, c'était le piano de ma mère. Elle n'arrête pas de me le répéter, c'est mon piano. Même aujourd'hui.
Vous dites que votre mère était très scolaire, qu'elle jouait du Chopin. Elle travaillait, vous l'entendiez jouer du Chopin, ça vous a
bercé ? Oui, ça lui arrivait effectivement, après avoir nettoyé la poussière. Et ça faisait un son qui était génial, ça faisait ça.
Toute mon enfance a été bercée.
Le fameux
ce son-là.
Donc après avoir nettoyé la poussière du piano, elle s'asseyait, elle jouait du Chopin. Surtout. Voilà ça. Et puis avec les années, elle oubliait de plus en plus. Et à la fin, elle connaissait, disons, les premiers. À la fin, elle est toujours vivante. Mais la dernière fois que je l'ai entendu, elle jouait que les premiers 5 mesures, le reste a été oublié.
Et votre père, il jouait aussi
Il a eu donc une vie un peu plus animée, musicalement parlant. Et c'est surtout lui qui partageait le temps libre, le temps de travail pour des gens qui travaillaient dans les bureaux et dans les différentes compagnies, était du 7h30 du matin jusqu'à 3h de l'après-midi. Ce qui faisait que mon école, c'était pareil, donc c'était du 8h à 3h, et on se retrouvait quand même avoir pas mal de temps dans l'après-midi au sein de la famille. Ce qui fait que l'oncle en question, celui qui faisait du ballet, etc., très souvent, voire presque deuxième, troisième soir, il passait à la maison, et il prenait les deux guitares, et puis il cherchait les chansons, puis etc. Et il y a une histoire qui m'en rappelait, il y a une dizaine d'années, mon père était toujours vivant, où il me disait, donc ils étaient en train de noter, donc mon père notait les accords qu'il venait de trouver pour des romances russes, sur les chansons russes, qu'ils étaient en train un peu de monter, pour une soirée, j'imagine. Et il paraît que moi je suis entré dans la pièce et j'avais 5-6 ans et j'ai pris le papier sur lequel il notait. Mon oncle en question, il n'écrivait et il ne lisait pas les notes. Et j'ai pris le papier, j'ai fait et je l'ai posé, je me suis cassé. Et l'oncle, il est resté genre, mais attends, 6 ans et il est déjà plus fort que moi.
Mais donc, de temps en temps, l'oncle passait, un voisin, enfin, il y avait de la musique un peu improvisée, on cherchait les accords,
disons,
il y avait du tâtonnement musical.
Disons que c'est quelque chose, c'est un peu la bande de son qui m'a accompagné presque jusqu'à mon départ de Belgrade, parce que la vie sociale à Belgrade est très active. Des gens, ils passent les uns chez les autres, c'est toujours le cas, mais à l'époque, c'était vraiment presque chaque soir, il y avait quelqu'un chez nous qui venait dîner, et puis etc. Donc, automatiquement, ça sortait les guitares, automatiquement, ça se mettait à chanter. Ce qui fait que je partais dormir avec, comme on vivait dans un appartement de 65 mètres carrés, et c'est avec ces sons-là que je m'endormais presque tous les soirs.
Les grands entretiens de Boyan Z, France Musique.
J'ai un frère qui est plus âgé, qui a un an et demi de plus que moi, qui a commencé les cours de violoncelle au moment où j'avais 5 ans, moi. Et donc, parfois, j'allais avec ma mère le chercher à l'école de musique. Et j'entrais dans la salle, je voyais le piano, et je fonçais sur le piano direct. Ce qui a effectivement montré au prof, « Ah bah dis donc, il m'a l'air intéressé, vous voulez pas l'inscrire lui aussi ?» Donc c'est comme ça que j'ai commencé.
Et donc les débuts à l'école de musique, oui. C'était l'école du quartier.
Oui, oui, tout à fait. Mais qui entre-temps est devenue l'une des meilleures écoles de musique, Nemanja Radulović. Nemanja Radulović, entre autres, est venue de cette école-là. Disons que le niveau d'apprentissage de la musique classique à l'époque en Yougoslavie, d'une manière générale, a été très sérieux dans le sens où c'était lié un peu à l'école, ce qu'on appelle l'école russe, n'est-ce pas ?
C'est encore la Yougoslavie titiste. Est-ce qu'on poussait beaucoup les enfants qui, justement, voulaient faire de la musique ? Est-ce qu'il y avait une politique culturelle et éducative des arts qui était forte ?
Très forte. Très forte. Moi, aujourd'hui, en regardant en arrière, j'ai l'impression que l'idée a été de faire de nous les astronautes. Parce que franchement, le niveau a été très haut. Donc il y avait une idée de nouvel homme, n'est-ce pas ? Ce qui fait que faire de la musique, c'était pas quelque chose de rare. Et tout le monde avait au moins un piano droit là, ou une guitare à la maison.
Et l'école était gratuite ?
Elle était gratuite, oui. Ah, oui. Dans une année scolaire, on avait au moins 4 fois, voire plus, on appelait ça l'heure interne, c'est-à-dire le mini-concert qu'on faisait dans la salle de concert de mon école de musique, devant les parents. C'était assez dur parce qu'effectivement, c'était les premières découvertes du trac. Donc effectivement, j'étais définitivement pas désigné pour devenir un pianiste classique.
Parce que vous aviez l'impression qu'en tant que pianiste classique, vous n'étiez pas dans les meilleurs de l'école.
C'était clair.
Ah, oui.
Et je savais aussi pourquoi, parce que j'aimais pas travailler.
Ah, oui.
Par contre, j'avais une autre qualité, enfin quelques autres qualités qu'il n'avait pas, c'est que, a priori, quand j'apprenais une pièce de musique, ben, je la comprenais. Donc si je me trompais quelque part sur la page numéro 5, souvent eux, ils étaient bloqués complètement et le seul moyen pour eux de reprendre, c'était de recommencer depuis le début. Moi, avec la compréhension de la musique que j'avais, je me trompais, puis je reprenais 2 notes avant et puis je continuais. Thank you. mon père avait un ami qui vivait au Brésil. Et il lui a envoyé 3 ou 4 compilations sur vinyle de la musique brésilienne. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, mon père, il a installé dans la cuisine de notre petit appartement un haut-parleur qu'il a connecté donc à son système qu'il avait dans le salon. Et on a commencé à écouter Elis Regina, Ivan Lins, Jobim, Les Sambas, Les Bossa Nova. Et ça, c'était très très fort, parce que cette musique-là, elle m'a fait rêver très vite de ce qui se passait au-delà du monde que je venais de connaître, qui était le monde. Donc,
et comment on pouvait écouter cette musique? C'était des disques qu'on achetait ou c'était la radio?
Donc lui, on pouvait. Il y avait un choix des albums qu'on pouvait acheter, bien évidemment, mais qui étaient filtrés. Un peu, on pouvait pas trouver tout ce qu'on voulait, parce qu'effectivement, dans l'idée socialiste, il a fallu choisir. Donc il y avait effectivement les rayons jazz, les rayons de musique classique, mais on achetait souvent les disques qui étaient russes. Et ça, je me rappelle, parce que les vinyles russes, ils étaient beaucoup plus lourds.
Ils étaient épais et lourds.
Épais et lourds. Puis, par contre, pas de très bonne qualité sonore. Mmh. Quoi. Voilà. Un épisode qui était très décisif. C'est à l'âge de 6 ans, donc un an après que j'ai commencé les cours de piano, une amie de mes parents m'amener pour mon anniversaire l'album des Beatles, Revolver. Disons que le moment où j'ai mis cette musique-là et que je me suis dit mais c'est quoi ça et comment on apprend ça, on apprend ça en écoutant et en essayant de refaire. Donc il n'y avait pas de partition. Disons que cette pénurie d'une part des albums, de l'autre part pénurie des partitions, pénurie des informations, etc., etc. En fait, c'était pas si mal que ça, parce que c'est ça qui a réveillé chez beaucoup de gens autour de moi et chez moi aussi une vraie passion pour la musique assez tôt.
Et votre prof de piano, elle ne faisait pas obstacle à tout ça?
Elle n'était pas très contente quand j'essayais de jouer cette musique-là. C'était d'une manière générale la musique qui n'était pas vraiment admise.
Et elle vous faisait travailler donc la grande musique, c'est-à-dire le répertoire qu'on joue au piano.
Technique, c'était du Czerny, donc pas Hanon, Czerny en fait, on disait. Que je n'aimais pas, parce qu'effectivement, c'était pas très musical, parce que pour moi, le moteur majeur, c'était vraiment la musique. J'éprouvais du plaisir à travailler aussi longtemps qu'il fallait, si cette musique me touchait. Et la prof en question, elle jouait plutôt bien, donc elle le jouait. Elle me jouait au moins 2 premières pages pour que je voie, et la manière dont elle le jouait, effectivement, ça me donnait envie de le travailler. Donc voilà, elle me laissait faire, et disons que assez rapidement, la joie que me procurait le fait d'écouter les disques des Beatles, etc., et le fait que je me suis mis assez rapidement à essayer de refaire ce que j'entendais, c'est le début, en fait, qui m'a mené vers le jazz. J'ai commencé un peu à piocher dans la discothèque de mon père, qui avait quand même, je crois, allez, pas plus 200, 250 vinyles. Mon père était amoureux de Bach, donc il y avait quand même pas mal de musique classique. Et il y avait bien évidemment la musique traditionnelle et aussi du jazz. Ella Fitzgerald,
Joe Pass,
ouais. Oscar Peterson, ouais. Avec Roy Eldridge. Et c'est ce disque-là, effectivement, quand j'ai entendu Oscar Peterson, je me suis dit, wow, c'est bluesy. Mais c'était trop rapide ce qu'il faisait. Par contre, j'ai assez rapidement trouvé la ruse. On avait la platine, enfin le tourne-disque. Et sur cette platine, donc, il y avait les quatre vitesses. Il y avait les 33 et les 45, mais on avait également le 16 et le 78. 78, c'était pour nous faire rigoler, bien évidemment, on accélérait les choses. Mais le jour où j'ai découvert que le 16, ça faisait presque la moitié de 33, et que ça me faisait entendre tout dans la même tonalité, mais deux fois plus lentement, là, Oscar Peterson, il était compris.
Quels sont vos premiers souvenirs de musique collective, de musique avec d'autres? Il y avait des petits orchestres, il y avait des orchestres de chambre ou des orchestres populaires. Comment vous avez rencontré vos semblables musiciens?
Les premiers souvenirs de la musique collective, c'était plutôt du blues. Mes voisins, les premiers voisins de palier, ils prenaient les cours de violoncelle et de la flûte. Mais eux, ils avaient un cousin qui, aujourd'hui, donc des années après, il est le guitariste de Big Band de Radio de Télévision Belgrade. Mais à l'époque, il était, on l'appelait le Clapton de Belgrade, quoi. Donc, il jouait la Stratocaster et il en avait une, ce qui était encore plus intéressant.
Une vraie Stratocaster.
Une copie d'abord. Ouais. Et par la suite, il a eu une vraie. Et il avait le vrai Marshall, donc l'ampli. Et j'étais en adoration devant ce gars-là. Et en fait, avant ça, c'est avec mon frère qui entre-temps a arrêté le violoncelle, il s'est mis à la guitare. Donc à partir de l'âge de 7 ans, ce qui me concerne, donc lui il avait 8 ans et demi, à deux, on passait notre temps à écouter la musique et à travailler.
Ouais, c'était les Z Brothers.
Voilà, les Z Brothers, exact. Nous, on avait aussi donc notre répertoire qu'on pouvait... Et donc c'était le blues. Je l'avais un peu dans les oreilles, donc je savais jouer ça et ne pas me tromper au moment où les accords changeaient. Donc j'avais déjà un peu les oreilles qui m'étaient développées.
Donc vous commencez avec le blues, comme musique collective avec les autres. Le jazz n'est pas encore à l'horizon.
Non, par contre, via les Beatles, c'était assez rapidement Symphorock, Yes, Genesis, etc., etc. Et puis bien évidemment, toutes les musiques qui m'intéressaient. Et j'ai mis la main sur... Hymn of the Seventh Galaxy, je crois que c'était le premier Return to Forever.
Donc ça, c'est Chick Corea, années 70, au moment où commence à avoir du succès, ce qu'on a appelé la musique de fusion.
Exact.
C'est presque ça, quoi.
C'était les débuts de la fusion. Et donc, j'ai
mis ça... Qui était très différent, quand même, d'Oscar Peterson.
Tout à fait. Ouais. Mais ça me touchait même peut-être plus fort qu'Oscar Peterson, parce que ça correspondait un peu plus au son de ma génération.
C'était plus moderne. Oui. Ouais. Il y avait du piano électrique, déjà. Il y avait
il y avait les synthés.
Ouais.
Et donc, c'est à ce moment-là que ma fascination pour les boutons en couleur, être entouré par 15 claviers, etc., commence, effectivement. C'était l'image de succès des années 70 des grands claviéristes que j'écoutais, Rick Wakeman ou Emerson, Keith Emerson aussi, etc., etc. Donc oui, voilà. Donc dans le jazz, bah, c'était intéressant musicalement, mais il n'y avait pas ce côté visuel qui, effectivement, un gamin comme moi jouait un rôle qui m'attirait quand même pas mal vers ça aussi.
C'est Hymn of the Seventh Galaxy qu'on vient d'entendre, c'est Chick Corea avec son groupe de l'époque, Return to Forever, un jazz sans descendance directe, mais avec des influences imprévues sur les musiciens à venir, et surtout en ce qui concerne l'amour des machines et de l'électronique qui notamment a frappé Boyan Z. Vous pouvez réécouter cet entretien sur francemusique.fr. Boyan Z, Gilles Blanchard, Arthur Gerbeau, Flora Sternadel, Yvan Amar.
À réécouter sur francemusique.fr.